VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 en universel du jeudi 9 août 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. La coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire éclate, le PDCI met fin à son compagnonnage avec le RDR. Voilà, donc on poursuit les titres de cette édition présidentielle au Mali. Deux candidats arrivés troisième et quatrième au premier tour refusent de donner des consignes de vote pour le second tour dimanche. L'opposition guinéenne renonce à sa marche prévue aujourd'hui suite à un accord sur le contentieux électoral. Et puis au Yémen, le CICR affirme que 29 enfants ont été tués dans ces bombardements en zone rebelle. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous en Côte d'Ivoire. Le PDCI a mis fin ce jeudi à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara. C'est donc la fin d'une alliance qui existait depuis 2010. Bagassi Koura.
C'est par un communiqué du président du PDCI, Henri Konan Bédié, que la rupture a été officialisée à 2 mois des élections locales et à 2 ans de la présidentielle. Ce communiqué a été diffusé après une rencontre hier soir entre Bédié et Ouattara. Le PDCI se retire du processus de mise en place d'un parti unifié dénommé RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et présentera des candidats pour les élections municipales et régionales sous sa bannière, selon son communiqué. Le parti unifié RHDP, créé par le président Ouattara à la mi-juillet, visait à unir sa propre formation, le RDR, Rassemblement des Républicains, avec le PDCI. C'est un véritable danger pour notre parti, le PDCI, a réagi Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, animateur d'un mouvement dissident favorable à la coalition RHDP. Cette rupture marque une recomposition du paysage politique en pleine effervescence avec l'amnistie et la libération de Simone Gbagbo et des principaux responsables du FPI, le troisième grand parti du pays.
Au Mali, au lendemain de la confirmation par la Cour constitutionnelle d'un second tour entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, les deux camps multiplient les tractations pour obtenir le soutien des candidats recalés. Mais Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, arrivés respectivement troisième et quatrième au premier tour, ont refusé de donner des consignes de vote à leurs partisans. Le point à Bamako avec Kassim Traoré.
Après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, des tractations sont en cours à Bamako. Aliou Diallo, candidat de ADP Maliba, arrivé en troisième position.
Chacune et chacun d'entre vous sait en toute conscience quel est son devoir républicain. C'est donc aux Maliens que je laisse le soin de s'exprimer comme ils le souhaitent au second tour de l'élection présidentielle. Je salue à nouveau l'engagement constant de tous mes soutiens à mes côtés. Je tiens particulièrement à remercier la famille du
L'ancien premier ministre Cheikh Modibo Diarra n'a pas jugé nécessaire de donner une consigne de vote à ses partisans.
Remplacer Ibrahim Boubacar Keïta par Soumaïla Cissé n'est pas l'alternance, n'est pas le changement. Ce n'est ni plus ni moins qu'un simple jeu de chaises musicales. Nous disons que chaque entité de notre regroupement conserve son autonomie et est donc libre de son choix à ce deuxième tour.
Si Cheikh Modibo Diarra et Aliou Diallo n'ont pas donné de consigne de vote, les tractations se poursuivent autour des autres candidats. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, au moins 11 civils peuls ont été enlevés et tués mardi dans la région de Mopti, dans le centre du pays. C'était au cours d'une attaque attribuée à des dozos, des chasseurs traditionnels. Selon Abdelaziz Diallo, président de la principale association peuls au Mali, ces civils ont été enlevés alors qu'ils allaient à la foire de Sofara. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. En Guinée, un accord politique a été trouvé entre l'opposition et la mouvance présidentielle pour régler le contentieux électoral née des dernières élections municipales. L'opposition obtient ainsi la désignation de plusieurs présidents de conseils de quartier et district et de plusieurs autres maires des communes rurales. En revanche, elle concède à la mouvance présidentielle la mairie de Doubreka. Les détails avec Zakaria Kamara, le correspondant de VOA Afrique à Conakry.
Il était utile de s'en sortir pour s'occuper d'autre chose, semblait se réjouir le Dalain Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, après lecture des conclusions du consensus par Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle. Les résultats auxquels on vient de parvenir ne sont pas toujours satisfaisants par rapport à toutes les revendications, mais nous avons accepté qu'une solution politique soit trouvée, a précisé le Dalain Diallo, avant d'ajouter que toutes les parties ont fait des concessions. C'est le cas de la désignation par l'opposition de 26 conseillers de quartier et de district, de 6 maires des communes rurales et du maire de Kindia. La mouvance présidentielle, elle, obtient la désignation du maire de Doubreka. Plusieurs partis politiques avaient contesté les résultats des élections locales du 4 février dans 4 des 5 communes de Conakry. Les accords trouvés mercredi recommandent de régler les contentieux dans ces circonscriptions conformément aux dispositions légales. Le point sur le fichier électoral n'a pas été discuté. Le même jour, l'audit du fichier électoral était officiellement lancé. Après la signature des accords, le chef de file de l'opposition a annoncé la suspension de la marche qui était programmée pour aujourd'hui dans la capitale. Zakaria Kamara, Conakry, VOA Afrique.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu aujourd'hui en Zambie. Il sera demain en République démocratique du Congo. Il va s'entretenir avec les présidents Edgar Lungu et Joseph Kabila sur des sujets liés à la coopération et la sécurité régionale, selon un communiqué de Pretoria. L'annonce de la visite de Cyril Ramaphosa en RDC intervient après que le camp présidentiel a désigné Emmanuel Ramazani Shadary pour briguer la présidence aux élections de décembre. En RDC, toujours, la vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola parmi les populations à haut risque a commencé dans la province du Nord Kivu, touchée par une nouvelle épidémie. Dans cette province de l'Est de la RDC, 9 décès ont déjà été enregistrés parmi les cas confirmés. La vaccination a commencé une semaine après l'annonce d'une nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Il s'agit de la 10e que le pays a connue depuis que le virus a été découvert en 1976. Une délégation du réseau social Facebook est en mission au Cameroun où le gouvernement veut contrecarrer les fake news à l'approche de la présidentielle d'octobre de cette année. Deux responsables de Facebook mènent une mission de formation et de sensibilisation sur les règles d'utilisation de sa plateforme qui interdit en particulier l'usage des discours haineux. Quelques jours après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir, le président sud-soudanais Salva Kiir a publié un décret d'amnistie pour les rebelles et l'ex-vice-président Riek Machar. Le point avec Eki Abadou.
Le président Salva Kiir a publié un décret amnestiant Riek Machar et d'autres groupes qui avaient pris les armes depuis 2013. Ce décret prend effet en date du 8 août 2018, selon le texte lu sur la radio nationale à Juba. Salva Kiir a de nouveau appelé ses troupes au respect du cessez-le-feu signé en juin avec Riek Machar. L'amnestie doit tracer la voie pour mettre fin au conflit et à la guerre dans notre pays, a déclaré le président sud-soudanais dans un discours. Les négociations vont en effet se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Nous devons œuvrer à l'unité de notre peuple, a conclu Salva Kiir. Un accord global signé en août 2015 était devenu caduque après une bataille meurtrière en juillet 2016 à Juba entre forces gouvernementales et rebelles. Depuis ces combats, Riek Machar vivait en exil. Les négociations sous l'égide de l'IGAD vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif.
L'opposant zimbabwéen Tendai Biti a bénéficié ce jeudi d'une libération sous caution. Son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, s'apprête à déposer demain un recours contre les résultats de la présidentielle du 30 juillet, remporté au premier tour par le sortant Emmerson Mnangagwa. Il avait fui en Zambie pour y demander l'asile politique. Il a ensuite été renvoyé ce jeudi matin dans son pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le vice-président américain Mike Pence a annoncé la création d'une force de l'espace souhaitée par Donald Trump. Le président américain avait indiqué en juin qu'il voulait que les États-Unis dominent l'espace, mais la création d'une nouvelle branche militaire doit être approuvée par le Congrès. Le vice-président a indiqué que le processus se ferait par étapes avec pour objectif de créer cette sixième branche de l'armée d'ici 2020. Il a demandé au Congrès d'approuver un budget supplémentaire de 8 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Montée de la tension dans les territoires palestiniens, au moins 18 Palestiniens ont été blessés ce jeudi dans le centre de la ville de Gaza par une nouvelle frappe de l'armée israélienne, c'est ce qu'a indiqué le ministère gazaoui de la Santé. Au Yémen, au moins 29 enfants tués dans une attaque qui a visé ce jeudi un bus dans le nord sous contrôle rebelle, c'est ce qu'a annoncé le comité international de la Croix-Rouge. De son côté, la coalition sous commandement saoudien affirme avoir mené une opération militaire, selon elle, légitime dans ce secteur. Un porte-parole du CICR, dans la capitale yéménite, également sous contrôle des Houthis, a précisé qu'il ne s'agissait là que d'un bilan provisoire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Nathalie Barche.
À l'occasion de la Journée internationale pour les populations autochtones, l'Union européenne a annoncé que 6,9 millions d'euros seraient consacrés à l'arrangement international pour le régime foncier et forestier. 5 millions d'euros supplémentaires seront octroyés aux organisations œuvrant sur l'accaparement des terres, le changement climatique et les droits des populations autochtones et communautés locales. La compagnie de services financiers Atlas Mara a obtenu la restructuration d'une dette de 40 millions de dollars due à Fairfax Africa Holding, qui lui a facilité la prise de participation majoritaire dans le capital du groupe bancaire nigérian Union Bank. En plus de toucher des dividendes dans sa qualité de premier actionnaire d'Atlas Mara, la holding canadienne percevra un taux d'intérêt de 10%. 31 athlètes congolais qui participaient aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger et n'avaient pas de billets d'avion pour rentrer ont finalement pu rejoindre la RDC mercredi soir, 10 jours après la fin de la compétition. Selon l'agence ADIAC, le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo, et le trésorier Roger Bondembe Bokanyanga ont payé les billets d'avion pour le retour des jeunes à Kinshasa.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, enfin l'Afrique tient sa première victoire.
Oui, puisque le Nigeria a battu Haïti 1-0 grâce à l'ouverture du score d'Adibadé en première mi-temps. Les Nigérianes se relancent dans ce tournoi après la défaite des Chinoises 2-0 face à l'Allemagne. Le prochain match qui verra justement s'affronter la Chine et le Nigeria pour une place en quart de finale. L'autre match de ce jeudi a vu les Espagnols battre les Japonaises 1-0.
Arrivé au Cameroun du nouveau duo de sélectionneurs.
Le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, le néerlandais Clarence Seedorf, est arrivé au Cameroun, tout comme le sélectionneur adjoint Patrick Kluivert. Seedorf a été reçu par Dieudonné Appy, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT.
Les derniers transferts avant la fin du mercato en Angleterre.
Le défenseur central de Barcelone, Yerry Mina, rejoint Everton, tout comme l'ailier brésilien Bernard et le milieu portugais André Gomes. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les deux clubs à quelques minutes de la fin officielle du mercato de la Premier League. Hier, le gardien belge Thibaut Courtois a signé pour le Real Madrid, où il s'est engagé pour 6 saisons. La transaction est estimée à 35 millions d'euros. Quant à Nancy, le club a officialisé la signature du milieu de terrain franco-congolais Christopher Maboulou. Le joueur de 28 ans était à l'essai depuis le début du mois de juillet. Maboulou, passé par Châteauroux et Bastia, a signé un contrat d'1 an avec ce club de Ligue 2.
Tour cycliste du Rwanda à présent.
95 km pour la 5e étape ce jeudi entre Karandji et Rubavu. Deuxième victoire d'étape sur ce tour pour le Belge Julian Elman qui s'impose avec 2 petites secondes d'avance sur le Sud-Africain Julius Jade et 3 secondes sur l'Espagnol David Lozano. Au général, Samuel Mugisha, le Rwandais, reste en jaune. Demain, c'est la 6e étape, 108 km entre Rubavu et Kinigi.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, après plusieurs mois de tension, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Alors pourquoi cette rupture? Yacouba Ouattara a joint Ferro Bali, il est journaliste freelance à Abidjan.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a choisi la rupture pour ne pas continuer le jeu du chat et de la souris avec le RDA. Le PDCI-RDA a soutenu la candidature du président Alassane Ouattara depuis 2010. En 2015, l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédier, avait fait l'appel d'Aoukro pour que tous les partis de la coalition RHDP s'alignent derrière le chef de l'État sortant Alassane Ouattara. Mais lui, il espérait en retour que en 2020, la coalition ferait en sorte qu'un militant du PDCI soit candidat et soutenu. Tel n'est pas le cas.
Est-ce la création en juillet dernier du parti unifié RHDP par le président Ouattara qui a précipité quand même les choses?
Naturellement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, est le président du directoire des présidents du RHDP. Et ce n'est pas lui Bédié, qui a convoqué cette réunion du parti unifié RHDP. Autre chose, c'est que des militants se réclamant du PDCI-RDA et conduits par le ministre Adjoumani Kobena ont créé sur les traces du président Houphouët-Boigny. Ce mouvement a été déclaré interdit au PDCI-RDA. Mais ce sont ces militants qui ont signé l'acte de naissance du parti unifié. Naturellement, le PDCI a interprété tout cela comme une manière de lui tourner dos.
Cette rupture intervient alors que rien qui est, le président Ouattara et le patron du PDCI, Henri Konan Bédié, se sont rencontrés.
Justement, cette rencontre a été l'occasion pour le président Bédié d'informer son cadet que désormais, l'alliance politique qui a prévalu jusque-là est rompue.
Quelles sont les implications de cette rupture pour le PDCI?
Le PDCI entre ainsi officiellement et formellement dans l'opposition. Et naturellement, le PDCI a ouvert les bras dans son communiqué à tous les Ivoiriens qui verraient les choses de la même manière que lui pour tenter de conquérir le pouvoir d'État en 2020.
Les élections locales, c'est pour octobre. Après ça, il y a la présidentielle en 2020. Faut-il entendre que le PDCI va présenter et des candidats pour les élections locales et pour la présidentielle de 2020?
Le PDCI a dit que pour les élections locales, municipales et régionales, ce sont ces militants qui seront soutenus. Et pour la présidentielle, naturellement, le PDCI a toujours dit, avec ou sans le soutien du RHDP, il aura un candidat en 2020.
Voyez-vous Alassane Ouattara ou Henri Konan Bédié candidat à la présidentielle de 2020?
Je suis convaincu, ça n'engage que moi, que le président Ouattara ne sera pas candidat. Il a fait deux déclarations en presque deux mois qui disent clairement qu'il veut se retirer. Quant au président Henri Konan Bédié, là, je ne peux pas vous dire clairement quelle est ma conviction. Toutes les options sont possibles au PDCI-RDA.
C'était donc le journaliste ivoirien Ferro Bali, joint à Abidjan.
Raïssa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, coup de projecteur sur la Côte d'Ivoire. À deux ans de la fin de son mandat, le président Alassane Ouattara a annoncé une amnistie en faveur d'environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame, Simone Gbagbo. Réforme de la commission électorale, lancement d'un nouveau parti unifié, vœu de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Pourquoi toutes ces annonces? Quel chemin vers la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Mali, une dizaine de civils peuls ont été tués dans le centre du pays. Ces personnes devaient se rendre à la foire de Sofara à 80 km au sud de Mopti. Les dozo, chasseurs traditionnels, sont pointés du doigt. Idriss Fall a joint Abdoulaye Diko, porte-parole de Tabital Poulagou, une association de la communauté peul du Mali.
L'acte est passé le mardi. C'était des marchands. Ils partaient au marché de Sofara. Et nous, en peul, on appelle la zone Kaka. Ils traversent les fleuves. Vers 10h du matin, leur pirogue a été stoppée par des hommes habillés en sacerdozo, lourdement armés. Vers 14h, 16h, ces gens arrêtés, il y a eu une sélection. 14 ont été retenus, 3 autres ont été libérés. et les 3 ne sont pas de la communauté Peul. Mais les autres 14 retenus sont tous des Peul et ils ont été tous aussi massacrés. D'ailleurs, l'enterrement de ces 14 personnes a eu lieu aujourd'hui.
Mais on croyait que les problèmes entre les Peul et les Dozo, c'est que c'était fini et réglé.
Non, pas du tout, même pas. Ça continue toujours. Et d'ailleurs, pour votre information, même ce matin, il y a aussi un petit village, toujours dans le cercle de Guéné, qui a été aussi attaqué par ces mêmes sacerdonzo. Et là-bas aussi, 3 personnes ont été tuées ce matin jeudi.
Ces dozo, ils opèrent comment? Parce que dans le centre du Mali, il était interdit de porter des armes de guerre, il était interdit de rouler en moto.
Oui, c'est interdit pour certaines communautés, mais pas pour d'autres. Depuis presque une année, c'est interdit. Mais malheureusement, ces donjons continuent toujours à rouler sur des motos, d'ailleurs des dizaines de motos, et avec les armes de guerre, sans problème. D'ailleurs, l'un des 3 personnes qui ont été libérées, l'un d'eux expliquait comment est-ce que ce donjon a été habillé. Il disait qu'il était habillé en tenue donjon, mais les chaussures là, c'est des rangers. Que les militaires portent. C'est ces chaussures-là que ces donjons aussi portaient.
Il y a un mois, le ministre de la Défense avait reconnu l'implication de l'armée dans l'assassinat de 25 civils vers Mopti. Est-ce qu'il y a une suite à cette affaire?
Pas à notre connaissance. Pas d'arrestation, pas de sanctions. Et ça continue toujours.
Est-ce qu'on a su qu'est-ce qui avait tué ces 12 civils-là dans un marché dans le centre du Mali?
Oui, ça fait à Boulkessi, près de la frontière burkinabé. C'est l'armée malienne. Le Mali fait partie du G5 Sahel. Donc ils étaient en groupe près de la frontière burkinabé. C'est l'armée malienne qui a massacré, ils ont tué ces 12 civils dans le marché. Et d'ailleurs, l'administration même a enquêté sur ça. Ils ont même reconnu que l'armée a tué ces 12 civils. Je vous dis toujours, il n'y a pas eu de sanctions. Il n'y a même pas d'enquête. Parce qu'on nous dit toujours, oui, il y a une enquête ouverte, mais l'enquête n'aboutit absolument à rien.
Voilà, c'était Abdoulaye Diko, porte-parole de Tabitel Poulago.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Congo, le gouvernement a déployé ce mercredi des membres de la commission mixte paritaire pour la paix dans le Pool. C'est dans le site où se déroulera le désarmement des ex-combattants à Ninja. Le pasteur Toumi, qui dit ne pas être associé à ces différentes étapes, a appelé dans une déclaration la communauté internationale à s'impliquer dans ce processus. C'est une correspondance de Arsène Séverin à Brazzaville.
C'est un important convoi de véhicules chargés de matériel didactique et de camping qui a quitté Brazzaville mercredi en tout début d'après-midi pour les localités comme Kinkala, Kibwende, Misafu, Kinkembo dans le Pool où se déroulera le ramassage d'armes illégalement détenues par les ex-combattants ninja. Le président de la commission mixte paritaire Séraphin Ondélé a déclaré à VOA Afrique qu'il était question de s'en tenir à l'agenda des opérations défini d'accord parti avec le camp de Ntoumi. Le calendrier a été validé par le pasteur Ntoumi et nous l'avons envoyé au chef de l'État qu'il a ensuite distribué aux partenaires internationaux. Nous ne pouvons donc plus faire marche en arrière, a affirmé Séraphin Ondélé, souhaitant ne pas directement s'exprimer au micro. Pourtant, le camp du pasteur Ntoumi murmure la frustration. Dans une déclaration publiée mardi et dont copie est parvenue à VOA Afrique, le pasteur Ntoumi réclame sa place au cœur de cette opération. Philippe Anébibi est son représentant personnel.
Toutes les démarches que nous avons entreprises dans le sens du ramassage des armes l'ont été à travers l'implication personnelle du révérend Pasteur Ntoumi pour sa réussite. Moi, je pense qu'il est tout à fait important et normal que le révérend rappelle sa place d'ambassadeur auprès des ex-combattants pour qu'il joue pleinement son rôle. Nous n'avons pas encore rendu compte que nous sommes informés maintenant que les équipes sont prêtes pour aller sur le terrain.
Attendez. Les autorités estiment avoir levé tous les obstacles empêchant le bon déroulement du désarmement, notamment la levée des poursuites contre le Pasteur Ntoumi et récemment le retrait des troupes militaires dans les zones où résiderait le chef rebelle. La société civile de son côté appelle les deux parties à s'accorder afin d'épargner les populations d'un énième supplice. Trésor Ndilakende de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, une ONG locale, renvoie dos à dos Ntoumi et le gouvernement.
Un accord qui consacre l'impunité n'est jamais durable. Dans un accord, il est toujours important que les deux parties dialoguent. Prenons le cas de M. Ntoumi, qui était un personnage clé dans la mise en œuvre de cet accord. Si on essaie de le contrôler, les choses ne vont pas aller. M. Ntoumi doit tout faire à ce que ce qu'ils se sont convenus dans cet accord soit respecté.
Selon le calendrier validé par chaque partie, il est prévu que le pasteur Ntoumi sorte de forêt le 10 août et rencontre le ministre de l'Intérieur un jour après. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les funérailles des trois journalistes assassinés en Centrafrique ont eu lieu hier à Moscou. Les autorités russes privilégient la thèse du vol, mais cette question continue de susciter des interrogations. Ces journalistes enquêtaient sur les activités d'une compagnie militaire privée russe en Centrafrique. Pour un éclairage sur l'implication russe en Afrique, Nicolas Pinault a joint Mikhaïl Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris.
On commence à reparler de la présence russe en Afrique, mais il faut quand même relativiser. Juste un élément, quelques chiffres, le commerce entre la Chine et l'Afrique en 2017, c'est 170 milliards de dollars. Le commerce entre la Russie et l'Afrique, c'était en 2017, 13,8 milliards de dollars, dont 3,5 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Bref, c'est 10 fois moins que le commerce entre la Chine et l'Afrique. Il y a quelques points d'ancrage de la Russie en Afrique, le Maghreb et l'Égypte, aussi l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, mais la Russie développe aussi des rapports avec d'autres États d'Afrique centrale et un peu dans l'Afrique de l'Ouest.
Quel intérêt pour Moscou de renforcer ses liens avec le gouvernement centrafricain ?
Ce n'est pas un secret, la République centrafricaine n'est pas un État très riche, mais côté enjeu économique, l'or et les diamants, ce n'est pas un enjeu crucial. La Centrafrique, c'est aussi le pétrole, et il y a des réserves de pétrole assez importantes dans le nord du pays, à la frontière avec le Tchad. Pour le pétrole, le problème, c'est l'enclavement. Si on commence à exploiter le pétrole d'une manière importante, il faudra désenclaver et construire des oléoducs. Enfin, c'est l'uranium, le fameux gisement de Bakouma, qui a été découvert par les experts français après la guerre. Tout le saga d'Areva, mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec le gisement de Bakouma? Est-ce que les Russes cherchent à se positionner d'un côté stratégiquement et aussi de se positionner par rapport à l'exploitation des richesses naturelles de la République centrafricaine.
C'était Mikhaïl Lebedev, ancien diplomate russe.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Cheikh Kero, à la console Vasco Volaric, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.